Le débat du jour.
Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous à l'écoute des RFI. Ravi de vous retrouver pour le débat du jour.
RFI.
Menace de mort, agression verbale ou physique, voiture personnelle brûlée, lettres d'insultes, messages injurieux sur les réseaux sociaux. Le nombre de plaintes d'élus victimes de violences augmente en France. Au terme du quinquennat qui s'achève, pas un seul élu du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale n'aurait échappé à un acte malveillant pendant son mandat. Le phénomène serait même en expansion avec les débats sur le pass vaccinal. Violence contre les élus, pourquoi tant de haine? C'est le débat du jour.
RFI.
Avec trois invités. Tout d'abord, Jacqueline Dubois. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes députée La République En Marche du département de la Dordogne, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Hélas, j'ai envie de dire, vous recevez régulièrement des menaces, voire vous subissez des actes malveillants. Votre voiture, pour citer que cet exemple, a été incendiée devant votre domicile personnel. Jean Garrigue au téléphone avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Historien, président du comité d'histoire parlementaire, pour vous, ces violences ne datent pas d'hier, mais elles sont certes démultipliées par les réseaux sociaux, c'est ce que nous verrons notamment avec vous. Et puis en studio, nous avons le plaisir d'accueillir Jade Zahab. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Auteur d'un essai intitulé « Retrouver la République face à la crise des consentements », édition du Cherche Midi. Et puis auteur d'une tribune intitulée « Les libertés individuelles ne doivent jamais légitimer la violence. Pour vous, l'heure est grave et nous n'avons plus le temps d'attendre. » Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Je commence cette émission avec vous, Jacqueline Dubois, je le disais, députée, victime d'actes de malveillance. Dites-nous pourquoi ce soir vous avez choisi de parler.
Eh bien, je n'ai pas l'habitude d'exposer les menaces que nous recevons, mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a une aggravation, une répétition de ces menaces, une accélération, et elles sont de plus en plus violentes. Mes collègues ont reçu aujourd'hui, je vais venir à l'Assemblée et je vais faire comme le Bataclan. On imagine la suite.
Racontez-nous, pour qu'on comprenne, ce que vous subissez. Vous êtes donc en circonscription, en province, par définition. Ça se passe jusque devant chez vous?
Alors, il se trouve qu'on est venu brûler mes voitures la nuit, mais c'était à l'époque des Gilets jaunes, en décembre 2018. C'était extrêmement surprenant pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout.
Avec des revendications, à part de voir un gilet jaune, est-ce que ces actes sont signés?
Alors justement, je n'ai jamais su si c'était vraiment des gilets jaunes ou si c'était un petit malin qui avait voulu faire, je dirais pas une mauvaise blague peut-être, mais en tout cas, sans mesurer peut-être la portée de son geste, tant au niveau personnel, je pense à ma famille qui a été profondément touchée, qu'au niveau symbolique.
Jean Garrigue, vous êtes historien. Il y a bel et bien eu des précédents lorsque l'on parle d'actes de malveillance à l'égard des élus français.
Il y a eu des précédents, c'est vrai, des moments d'extrême violence de la vie publique, que ce soit par exemple au moment de l'affaire Dreyfus ou dans l'entre-deux-guerres, avec notamment les attaques antisémites de l'extrême droite, très, très violentes à l'encontre de quelques parlementaires, de quelques élus particuliers. Il y a eu des batailles rangées entre les militants communistes et les militants d'extrême droite aussi pendant l'entre-deux-guerres. Mais ces attaques systématiques, généralisées contre les députés, notamment de La République En Marche, mais pas simplement, à ce point, à ce degré, je dirais, quantitatif, avec des attaques contre les lieux d'habitation individuels de ces députés, et pas simplement contre leur permanence, bien tout ça, c'est quelque chose de totalement inédit dans notre histoire politique. Il y a presque quatre ans, moi je me souviens que j'avais fait une tribune dans la presse, à la suite de ce cours de Laurent Wauquiez, qui, en des termes, on peut dire, très violents, qualifiait la vie politique, ses adversaires, ses amis, etc. Et j'avais alerté sur l'effet désastreux de ce type de dégradation de la parole publique par des élus et par un élu de premier plan.
Laurent Wauquiez, ancien ministre Les Républicains, Jade Zahab, quand on dit que c'est inédit, vous confirmez ou pas?
Oui, je crois que c'est inédit et le contexte n'a pas aidé. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a la réalité dans laquelle nous vivons depuis quelques temps et qui est celle d'une société qui est fragmentée parce que la pandémie s'est invitée dans nos vies et que le temps politique n'a pas forcément su s'adapter, mais parce que la pandémie est quelque chose de complètement nouveau. Et je crois qu'elle a accéléré la pénétration de la société du discours de désinformation, du discours de contre-vérité. En une phrase, on a commémoré la semaine dernière la première année de l'invasion du Capitole à Washington par les partisans de Donald Trump. Moi, je crois que c'est la démonstration de ce que ces gens à qui on avait mis dans la tête de la désinformation croyaient être les sauveurs de la démocratie, alors qu'en réalité, ils en sont les fossoyeurs. Et donc, il y a ce contexte-là de la crise sanitaire qui a, je crois, déconfiné une forme de violence. Et il y a quand même un contexte aussi depuis une vingtaine d'années, de ce que j'appelle la crise des consentements à l'autorité de l'État, aux règles du jeu démocratique, qui dit quelque chose de profond sur un lien qui s'est distendu entre les citoyens et les politiques. Alors, il faut le redire très clairement, ça ne justifie strictement aucune violence. Mais je crois que dans le contexte de l'élection présidentielle qui arrive, il faut que nos politiques affrontent cette réalité qui est d'un lien qui s'est, un lien qui s'est distendu. On ne consent qu'à une autorité que si elle nous représente. Et donc, on peut lutter contre, mais encore une fois, sur la violence, oui, elle est inédite et elle est très grave.
Sur ce lien distendu entre citoyens, politiques, Jacqueline Dubois, députée La République En Marche.
Oui, c'est un sujet intéressant, une question intéressante et qui, moi, m'a interpellée parce que dans cette mandature, il y a de nombreux députés qui viennent de la société civile, qui n'avaient jamais eu de mandat d'élu auparavant. Et moi, c'est un petit peu vraiment quelque chose qui m'étonne. Je me sens toujours pleinement citoyenne et pleinement de la société civile. Alors, ça va faire bientôt 5 ans que je suis élue. Mais je n'ai rien changé à ma manière de vivre, si ce n'est le travail au quotidien et constant lié à mon mandat de députée. Mais je suis toujours exactement la même, avec la même conscience des autres qu'auparavant. Et je ne me sens pas distendue de mes concitoyens.
Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je vous avez complètement raison, c'est que quand on devient un élu, dans l'inconscient collectif, on entre dans cette caste-là. Un exemple, quelle était la principale revendication des Gilets jaunes? C'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Paradoxalement, nous n'avons jamais eu autant d'abstention lors des dernières élections. On a élu une Assemblée nationale avec plus de 50% d'abstention. Qu'est-ce que ça dit? Pour moi, c'est qu'il y a une distension aujourd'hui, une tension, une dialectique entre la démocratie représentative, est-ce qu'on se sent représenté par quelqu'un qu'on a élu, et une démocratie participative. Et donc ça pour moi, évidemment, pour que les gens qui nous écoutent le comprennent bien, rien de tout cela ne justifie les violences. Mais pour moi, ça, c'est la trame de fond qui se développe dans la société depuis une dizaine d'années. Et donc, je pense qu'il faut qu'on questionne tout cela. Mais évidemment, c'est Jean Garrigue qui mentionnait la question dans l'histoire. Enfin, pardon, mais quand vous voyez aujourd'hui la violence du débat politique, les uns veulent sortir le Karcher, les autres veulent emmerder les Français, les derniers font des doigts d'honneur en déplacement à Marseille, en l'occurrence. Je crois que la violence du discours politique, elle reflète, soit elle suscite la violence aussi. Et donc, c'est vrai qu'il faut qu'on retrouve une forme de sérénité.
Et nous allons faire agir Jean Garrigue sur ce dernier point. Est-ce que la violence usitée, utilisée par les politiques, pourrait-elle cautionner cette violence des citoyens?
Oui, c'est exactement ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure en parlant de Laurent Wauquiez. Il n'est pas le seul responsable, évidemment, parce qu'on voit à quel point, en permanence, les politiques se laissent aller à une dérive verbale. On me dirait que ça a toujours existé, et notamment en période de campagne électorale. Mais dans le contexte de ce divorce entre les élus et les citoyens, ce divorce qui est dû à beaucoup de facteurs, on sait qu'il y a une crise de la démocratie, une crise de la représentation, et pas simplement en France, on ne doit pas mettre de l'huile sur le feu, on ne doit pas souffler sur les braises. Il faut faire très attention au langage qu'on emploie, aux mots qu'on emploie, parce que vous légitimez toutes les violences si, en tant qu'élu représentatif, vous employez ce type de langage. Et je dirais qu'il y a eu aussi une sorte de complaisance que personnellement j'ai trouvé assez malsaine au moment de la crise des Gilets jaunes, de la part à la fois de certains politiques qui encourageaient à cette violence et de la part des médias aussi, d'une partie des médias qui en faisaient un peu leur feuilleton quotidien. Une certaine une violence qui était compréhensible de la part des Gilets jaunes. Il y avait une révolte sociale, une frustration sociale des terres périphériques et d'une France oubliée. Mais la violence n'est pas excusable en démocratie. D'où qu'elle vienne, elle n'est pas excusable.
Y compris verbale.
Y compris verbale, bien sûr, parce que de la violence verbale découle une violence physique. C'était déjà le cas dans les années 30. Hein. Vous savez, quand on insultait en permanence quelqu'un comme Léon Blum, que l'extrême droite appelait la chamelle ou le juif Blum, bien sûr, c'était des attaques antisémites, ça a fini par une foule qui a failli le lyncher en février 1936. Donc les mots appellent la violence physique. Il y a des traditions de violence physique dans notre histoire politique. Les mouvements agraires, par exemple, ont un peu cette tradition. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est le symptôme de ce divorce entre les citoyens et la classe politique. C'est beaucoup plus que ce vieil antiparlementarisme récurrent qui a toujours existé d'ailleurs. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Et je pense que les hommes politiques n'en prennent pas assez conscience. En tout cas, ceux qui soufflent sur les braises n'en prennent pas assez conscience. Ou plutôt, et c'est ça qui est grave, et c'est ça qui est inquiétant.
Je vais faire circuler la parole justement. Une femme politique est en studio avec nous, Jacqueline Dubois, députée La République En Marche. Vous vouliez réagir.
Je souscris à ce que vous dites, Jean Garrigue. Effectivement, il y a un problème de surenchère dans le discours politique. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a le travail de fond à l'Assemblée nationale, il y a des vagues et il y a l'écume des vagues. Et il y a aussi ce qui est montré à la population, ce qui est répercuté par les journalistes, par les médias, c'est souvent l'écume des vagues. C'est-à-dire, plus on fait d'éclats, plus on a des chances d'être entendu, d'être repassé en boucle. Je ne veux pas accuser les médias, mais
il
y a une exploitation là, de la parole et une tentation pour l'homme politique.
Le dernier mot violent entendu a été prononcé par le chef de l'État, que peut-être vous représentez en tout cas ici. Mais est-ce que du coup... Parlez-nous franchement, quand vous entendez le chef de l'État critiquer certains citoyens, quand vous êtes à l'Assemblée nationale et vous retournez en circonscription, vous en pensez quoi? Ça alimente cette violence?
Je vais vous dire que ça a changé complètement le travail que nous avons eu à l'Assemblée nationale. C'est certainement un mot qui n'était pas au bon moment, à la bonne place, et en tout cas peut-être sorti de son contexte aussi, parce que peut-être que dans le contexte, dans l'intimité d'un échange, il avait peut-être sa place, mais certainement pas en dehors de ce contexte-là, et ça a vraiment modifié complètement le travail parlementaire.
Oui, je suis d'accord avec vous, Madame la députée. Ce qui est certain, c'est que les propos du président, même si en effet ils ont été prononcés dans un autre contexte, n'ont certainement pas apaisé les choses. Et vous le voyez, je crois qu'il y a une forme de violence qui est très différente depuis les Gilets jaunes. Je crois que la pandémie a vraiment déconfiné un autre type de violence. Regardez les manifestations sur le pass sanitaire. On convoque l'apartheid, on convoque la Shoah, on convoque la ségrégation. Il y a une forme d'outrance qui, je crois, aujourd'hui, doit toutes et tous nous inquiéter parce que nous n'avons plus dans la société de dénominateur commun. Moi, je dis très souvent, le débat démocratique, tant mieux qu'il soit vigoureux, c'est la force de notre démocratie et il faut qu'on réussisse à le préserver. Mais à partir du moment où, dans une société où la désinformation est partout, nous allons devoir nous battre pour rétablir les faits avant même d'avoir un débat idéologique, je crois que ça, c'est très délicat, ça pose un vrai sujet parce que si nous ne partageons plus même ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas, la qualité du débat démocratique s'en retrouve considérablement dégradée. Et oui, avec les réseaux sociaux, avec certaines chaînes d'information en continu, nous sommes dans une époque qui valorise le dogmatisme, qui valorise l'antagonisme, qui valorise le clivage stérile. Et ça ne dit rien de bien de l'état de notre démocratie. Donc je pense qu'il faut que nos politiques arrêtent de traiter les symptômes. Et ça fait 20 ans qu'on ne traite que les symptômes, mais traite les causes profondes. Alors évidemment, il n'y a pas de solution miracle. La droite et la gauche et tous les partis, s'il y avait une solution miracle, j'ose espérer qu'on l'aurait trouvée. Je pense que, Madame la députée, moi j'utilise souvent l'expression l'écume des choses. Ne laissons pas l'écume des choses gagner et osons le complexe. En 2022, le choix, ce n'est pas entre le bien et le mal, c'est entre le complexe et le facile.
À moins de 3 mois de l'élection présidentielle.
Alors encore une idée que je partage, nous avons des points communs. Je voulais revenir sur la démocratie participative, parce que c'est un concept qui est extrêmement intéressant, Après, la question, c'est comment peut-on le mettre en œuvre et à quel moment est-ce pertinent de le mettre en œuvre.
Et peut-être la définir.
Et j'ai échangé, avec des électeurs sur les marchés qui me disent « Madame, ce qu'on veut, c'est la démocratie participative ». Alors je leur dis « Ok, ça m'intéresse, expliquez-moi comment on fait pour le mettre en place dans notre petit village, dans le petit village sur un marché ». Je vois très bien comment on peut imaginer de poser des questions, d'associer les citoyens à la réflexion, à l'utilisation du budget, etc. Mais au niveau de la conception des lois et de des amendements des lois, étant donné leur complexité, expliquez-moi comment on peut faire pour faire participer tout le monde. Et là, évidemment, je me suis fait insulter. Je me suis retrouvée toute seule.
Et vous, quelles seraient donc vos préconisations ?
Alors, je pense qu'on aurait intérêt, effectivement, à revitaliser la démocratie locale par la démocratie participative. Mais moi, ce que j'invite, et c'est ce que j'ai fait moi, j'invite à l'engagement. À l'engagement politique, à l'engagement dans les élections. Parfois, on manque de candidats, parfois, on en a trop. Mais il faut oser faire le pas aussi. Si ça nous intéresse, il faut oser faire le pas.
Le débat du jour sur RFI. Adrien Delgrange.
Avec trois invités, Jacqueline Dubois, députée La République En Marche de la Dordogne, Jean Garrigue, historien, et Jade Zahab, auteur d'un ouvrage « Retrouver la République face à la crise des consentements ». En tant qu'historien, Jean Garrigue, et pour faire écho à ce que nous disait un instant Jacqueline Dubois, est-ce qu'il ne manquerait pas des espaces de dialogue aujourd'hui dans notre démocratie entre citoyens et politiques pour éviter autant de violences ?
Alors, on peut considérer, et c'est vrai que l'affaissement de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, que ce soit les syndicats, dont on sait qu'ils sont en crise depuis très longtemps, mais aujourd'hui les structures partisanes, qui ne se sont pas modernisées, qui ne se sont pas adaptées aux besoins d'un engagement beaucoup plus ponctuel, beaucoup plus sporadique et sur des thèmes nouveaux, comme l'écologie, par exemple, ou le monde animal. Enfin, toutes ces structures qui faisaient tampon entre les citoyens et les élus se sont affaissées. Mais ce n'est pas le plus grave, à mon sens. Le plus grave, c'est le sens commun qui a disparu. L'idée que nous faisons République ensemble. Et il y a un immense travail, à mon avis, de reconquête, de pédagogie, y compris, par exemple, pour connaître, pour savoir ce que nos élus, le travail qui est effectué par nos élus, un immense travail pour comprendre et savoir ce que ça signifie d'être un citoyen. Être un citoyen, ce sont des droits et des devoirs. On le voit de façon éclatante dans cette crise de la pandémie. Quel point il y a une méconnaissance de ce qu'est la liberté pour un citoyen. Que la liberté, ce n'est pas une liberté individuelle, c'est une liberté qu'on partage collectivement avec d'autres. Et tout ça, c'est très important parce que ça fait partie justement de tous ces éléments qui clivent, qui séparent les citoyens eux-mêmes et les citoyens avec leurs élus.
Vous avez entièrement raison. Décidément, on a beaucoup de points de convergence et c'est tant mieux. En effet, je crois qu'il y a une partie du pays pour qui les libertés individuelles sont vécues comme un rempart à tout effort collectif. Et je crois qu'il faut en effet refaire cette pédagogie de ce qu'est la citoyenneté. Parce que finalement, quand on dit les droits et les devoirs, c'est la citoyenneté. C'est ce qui fait que quand on habite dans le 7e arrondissement de Paris, à Pointe-à-Pitre, à Pau ou à Strasbourg, nous partageons quelque chose. Et bien, je crois précisément que cette crise des consentements dit qu'il faut mettre à jour notre contrat social, il faut le repenser, il faut le réinventer parce que on ne vit plus en France en 2021, 2022 maintenant, comme on vivait en 1958. Et donc il y a une urgence à repenser ça. Et la pandémie, je crois, n'a fait qu'achever de mettre en exergue le fait que aujourd'hui certains, alors le président dirait certains pensent qu'ils n'ont que des droits, pas de devoirs. Moi je dis la liberté individuelle n'est pas un rempart aux libertés fondamentales et collectives. Et il y a un vrai travail de pédagogie, d'explication et de participation. Et dans mon livre, j'appelle par exemple, il y a 24 propositions, mais 34, à des états généraux de la citoyenneté. Mais il faut aussi rendre notre assemblée plus représentative. Là où on peut avoir un regret, c'est que le président avait dit qu'il ferait une révision constitutionnelle pour introduire la proportionnelle. Ça n'a pas été fait. Alors c'est l'affaire Benalla qui a tout arrêté à l'été 2018. Mais voilà, il y a des choses qu'on peut faire et il faut les affronter parce que sinon, ma crainte et c'est l'objet d'un livre que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est que notre démocratie ne soit plus en capacité de maintenir la paix sociale.
Et parce ça que ne les vous agressions... paraît pas, si vous permettez, étrange qu'en 2022, vous reparliez de ces fondamentaux.
Est-ce que je peux enchaîner
Si vous permettez, juste en 10 secondes, moi je crois que les violences que vivent nos élus, elles doivent nous alerter, que vivent les policiers, les pompiers, tous les gens qui représentent l'État. C'est très grave.
Oui, alors Rousseau souhaitait revitaliser l'homme par le citoyen. Et aujourd'hui, moi, je me demande, et je ne suis pas la seule à poser cette question, est-ce qu'on ne doit pas revitaliser le citoyen par l'homme, par l'humain ? C'est la question du vivre ensemble aussi. Par rapport aux valeurs que vous évoquez de notre nation, la liberté, l'égalité, la fraternité, moi, je crois qu'il faut réinterroger aussi la fraternité dans les politiques publiques aujourd'hui. La fraternité s'exprime par la solidarité. La solidarité, ben, quelquefois, elle est peut-être déshumanisée aussi. C'est une pension qu'on reçoit, une somme d'argent qu'on reçoit à la fin du mois. Est-ce que c'est suffisant pour faire du commun ?
Qu'en pense l'historien Jean Garrigue ?
J'en pense que les solutions pour sortir de ce divorce, cette différence entre les élus et les citoyens, ou plutôt des citoyens envers les élus, les solutions, elles sont des deux côtés. Je suis un peu gêné parce que j'ai de l'écho pendant que je vous parle, donc je m'entends.
Et je ne vous cache pas que la ligne n'est pas très bonne. Si je vous coupe, ce n'est pas de mon fait, mais tout simplement parce qu'on ne vous entend pas très bien. Parmi les différentes solutions, je me retourne vers nos invités en studio. Est-ce que dans votre cas, Jacqueline Dubois, il y a eu le volet pénal, c'est-à-dire que les personnes qui ont clairement brûlé votre voiture devant votre maison, ont-elles été poursuivies par la justice ? Est-ce que la justice a répondu à la hauteur de l'acte ?
J'ai eu des menaces aussi pour brûler ma maison, mais c'était par lettre anonyme. Je veux remercier la gendarmerie qui reçoit nos plaintes et qui apporte beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute et qui prend avec beaucoup de sérieux ces menaces. Et qui surveille nos maisons, qui surveille nos permanences, qui prend des nouvelles de notre famille, prend des nouvelles de nos collaborateurs, parce que je voudrais dire aussi qu'on n'en parle jamais, mais nos collaborateurs sont très exposés à ces violences aussi. Ce sont souvent les premiers qui ouvrent les courriers, les premiers qui ouvrent les mails. Il y a tout un système autour d'un ensemble de personnes qui sont touchées par ces violences.
Et vous vous sentez aujourd'hui protégée ?
Non, je préfère penser qu'il n'y aura pas de passage à l'acte, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un déséquilibré qui se serve de... C'est pour ça que je n'aime pas parler des violences en général. C'est très rare que j'en parle publiquement, parce qu'il ne faut pas donner non plus trop d'importance à ces questions-là. Il ne faudrait pas susciter des passages à l'acte.
En tout cas, merci de venir ici en parler en direct sur RFI. Jean Garrigue, est-ce que le volet pénal pourrait être une des réponses pour lutter contre ces actes malveillants à l'égard des élus ?
Oui, ça me paraît une certitude. Il faut faire preuve de fermeté par rapport à ces actes. Ce fut là, d'ailleurs, dans les années 30, des mesures avaient été prises pour essayer de lutter contre cette violence politique. Mais si vous voulez, les solutions, elles sont à la fois du côté d'une relégitimation des élus. Ça passe notamment par peut-être plus de proportionnel. Ça passe, à mon sens aussi, par une réforme qui se constituerait dans le retour au septennat, en tout cas un découplage des élections pour donner une vraie autonomie au Parlement. Mais ça passe aussi par une responsabilisation, et ça je l'entends assez peu, une responsabilisation des citoyens eux-mêmes. Je veux dire qu'il y a tout un travail, je le répète, pour comprendre ce qu'est être un citoyen, ce qu'est respecter les institutions. Mais vous me direz, pour respecter les institutions, il faut d'abord que ceux qui les font agir les rendent respectables. Et ça, c'est un vrai problème. J'ai entendu récemment des élus importants, des chefs de parti, qui critiquaient le travail du Conseil constitutionnel, par exemple. Quand vous avez ce dénigrement systématique d'une institution importante dans notre édifice politique, et forcément, il ne faut pas s'étonner que de la part des citoyens, il y ait de la violence et une incompréhension, une ignorance de ce que sont ces institutions. Donc, je pense que chacun d'entre nous est responsable aussi de cette montée de la violence et de ce divorce et de cette crise de la représentation.
Je voulais juste citer cette décision de justice rendue En ce début d'année, le 5 janvier dernier, au Havre, un étudiant de 19 ans a été condamné à 10 mois de prison, dont 4 fermes, après avoir posté des menaces de mort en ligne contre des députés.
Alors, il y a eu très peu de condamnations. D'abord, on ne les attrape pas. Les mails que nous recevons sont envoyés par des plateformes qui les rendent anonymes et très difficiles à découvrir. Il y a eu des enquêtes de fait sur des violences qui ont été menées sur les permanences. On a parfois trouvé les coupables, parfois non. Mais quand on les a trouvés, il n'y a pas eu de condamnation. Oui, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il faut punir quand il y a des passages à l'acte ?
Vous vouliez réagir sur ce point-là, Jazab ?
Je pense en effet qu'il faut une justice ferme, mais ça ne peut pas suffire parce que, la justice et le régalien intervient après. Et ce qu'il faut faire, c'est de la prévention et, encore une fois, s'attaquer aux causes. Parce que moi, j'ai coutume de dire que les violences, elles sont le symptôme de quelque chose. Et donc, elles sont le symptôme de cette crise des consentements, elles sont le symptôme de cette crise de la représentativité. Et donc, oui, il faut des institutions plus représentatives. Oui, il faut une temporalité politique qui s'adapte aux enjeux. Il faut prendre en compte les revendications dans la démocratie locale, etc. Mais sur la contestation des institutions, que mentionnait Jean Garrigue, c'est un fait tout à fait majeur et c'est le mode de pensée de Donald Trump qui est en train de s'importer chez nous quand et c'est le sujet du livre que j'écris en ce moment, sur l'état de droit, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, il y a une partie de l'échiquier politique qui a dessein alimente ce populisme judiciaire et juridique. Il y a une partie de la classe politique pour qui l'état de droit n'est plus la solution, mais le problème. Quand on attaque le Conseil constitutionnel, quand on attaque le Conseil d'État, évidemment, on délégitime les institutions et ça alimente l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, mais que nous serions dans une dictature. Ça alimente et ça nourrit cette contestation violente. Et je crois que ça doit nous alerter parce qu'en 2022 en France, ce qui s'est passé au Capitole, ça pourrait nous arriver. Et d'ailleurs, il est arrivé pendant les manifestations des Gilets jaunes, que les manifestants, que je n'associe évidemment pas à la majorité des Gilets jaunes, que les casseurs et les violents soient aux portes de l'Assemblée. Ne nous croyons pas. Je me rappelle, à Paris, on avait dit, mais non, c'est Trump, ça n'arrivera jamais en France. Non, quand vous avez Éric Zemmour dans ses vœux à la presse ou dans son meeting à Villepinte qui dit des journalistes, des juges et des politiques, ils veulent vous voler la démocratie. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait Éric Zemmour ? Il prépare ses supporters à une éventuelle défense, à une éventuelle défaite. Moi, je dis très clairement, ses supporters accepteront-ils les résultats ou prendront-ils les armes ? C'est là où on en est aujourd'hui.
Et on est, comme vous l'avez évoqué au début, dans une guerre entre la pensée simple et la pensée complexe. La pensée simpliste. Que tout le monde qui fait plaisir.
En guise de conclusion, Jean Garrigue, vous n'êtes pas avec nous, on ne vous voit pas, mais par téléphone, vous en conviendrez, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble de manière collective à notre manière de faire de la politique.
Ah, mais ça, c'est une certitude. Et il faut absolument, effectivement, revenir à un débat qui soit un débat apaisé, qui soit un débat respectueux des personnes, et des idées d'ailleurs, mais qui soit un véritable débat. C'est d'ailleurs pour ça que a été créé le parlementarisme et donc la réhabilitation du Parlement, y compris une réhabilitation par rapport à l'opinion publique. Et je le répète, avec un effort d'information et de connaissance du travail réel et très efficace de nos parlementaires. Tout ça fait partie de cette reconstruction de l'espace public. Mais si vous voulez, c'est à mon goût, à mon sens, d'après ma perception d'historien, c'est un travail de très très longue haleine parce qu'il faut recréer le citoyen et le sens commun de la citoyenneté. Et ça va être un travail qui va prendre beaucoup, beaucoup d'années, je crois.
En tant que législateur, le mot de la fin.
Je remercie Jean Garrigue d'évoquer le travail des parlementaires. Et c'est vrai qu'il serait intéressant de donner plus à voir le travail des parlementaires, de quelle manière nous réfléchissons et nous amendons les lois, toute la complexité, et de montrer aussi que nous sommes au travail, justement. C'est ça qui est un point aussi qui est un point de doute chez certains de nos concitoyens.
Merci, j'espère qu'on aura levé ce doute pour éviter ces actes de malveillance en forte recrudescence en France. C'est la fin de ce débat. Merci à tous de l'avoir écouté, réalisé ce soir par Laurent Philippot, coordination Florence Pons, rédaction en chef Patrick Adam. À suivre dans quelques secondes sur la radio du Monde, un nouveau journal.
Tous les jours, accent.